La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Et aujourd'hui, c'est la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette journée de la mémoire devra faire prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République. En même temps, il faut montrer que l'horreur s'inscrit dans une histoire qu'il convient d'accrocher avec méthode. Il est nécessaire de montrer aux jeunes que ces valeurs ne sont pas de simples mots. Leur respect dans tous les pays du monde est fondamental et nécessite de la part de chacun d'être attentif à ce qui menace ces valeurs et actif pour les défendre. C'est une mémoire qui repose sur les témoignages des acteurs et sur les travaux des historiens. Une mémoire d'autant plus vive, paradoxalement, que les survivants disparaissent, ayant à cœur, s'ils ne l'ont déjà fait, de transmettre aux générations nouvelles ce que, bien souvent, si longtemps, ils ont eu tant de peine à exprimer. Prévention des crimes contre l'humanité en même temps que mémoire de la Shoah, cette journée a également pour but d'intégrer à ce travail de mémoire toutes les victimes des crimes contre l'humanité. Et d'abord, pour en revenir aux victimes de la terreur nazie, outre les communautés juives d'Europe qui en forment la majeure partie, les populations tziganes ou encore les malades mentaux. Ce devoir de mémoire et de prévention est plus actuel que jamais. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui comme demain, aucune forme de racisme et d'antisémitisme, quelle qu'elle soit, ne saurait être tolérée. Une vigilance qui souligne que l'enjeu de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, camp de concentration et centre de mise à mort, ne concerne pas que les bourreaux et leurs victimes juives. Elle est le lieu de mémoire commun d'une mémoire européenne qui ne cesse de se constituer et l'horizon d'une humanité fondée sur la justice, la paix et la tolérance. Et maintenant, le sommaire. Au programme de ce soir, nous recevons Robbie Mordeur, co-président du GERM, pour évoquer les élections des représentants des étudiants du CROUS avec Julie. Le Zoom sera sur le festival contre les violences sexuelles faites aux enfants avec Isabelle Bourdon et Suzanne Frugier, représentant l'association 160 000 enfants. C'est Kyriane qui le présentera. Noémie nous parlera de l'actu du jour, être galérien. Et pour terminer, ce sera la chronique d'Abel. Bienvenue dans la matinale de Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'interview.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous sommes avec Robbie Mordeur, le coprésident du GERM, donc le centre, le groupe d'études et de recherche sur le mouvement étudiant et spécialiste des mouvements et syndicats étudiants, avec qui nous allons parler des élections des représentants des étudiants et vous en expliquer les différents mécanismes. Et c'est Julie qui l'interviewera. Bonjour Robbie Mordeur.
Bonjour.
Bonjour Julie, c'est à toi.
Bonjour. Alors, Robbie Mordeur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'élections étudiantes et c'est un plaisir de vous recevoir puisque vous-même, vous avez été élu en tant qu'étudiant au Conseil de l'Université de Paris 8, de Paris 10. Vous avez été responsable de plusieurs syndicats étudiants. Puis, même après avoir quitté les bancs de la fac, vous y êtes toujours un peu resté en devenant professeur, puis chercheur. Vous avez étudié les mouvements étudiants, vous les avez commentés, enseignés. Vous avez même fondé le groupe d'études de recherche sur les mouvements étudiants, GERM. Et c'est donc un plaisir de vous recevoir pour comprendre au mieux la teneur des élections des étudiants au conseil d'administration du CROUS qui auront lieu du 3 au 5 février prochain. Donc le CROUS, on en entend beaucoup parler dans notre vie étudiante, pour les restaurants CROUS, les résidences CROUS, pour les bourses. Mais le CROUS propose également de l'aide sociale, de l'accompagnement à l'accès à la santé, à la culture. En fait, le CROUS, ce sont des établissements publics qui ont pour mission l'aide et l'accompagnement pour tous les étudiants. Donc ces élections, commençons par le commencement, elles servent à quoi? On vote pour élire qui?
Alors d'abord, il faut rappeler que les œuvres universitaires, c'est d'abord des réalisations étudiantes, des associations étudiantes. Les premiers restaurants ou les logements universitaires étaient gérés par les associations générales d'étudiants. Et donc, il n'y avait pas d'élection. Sinon des élections internes aux associations. C'est à partir, je vous passe l'histoire, mais on oublie souvent cette dimension. Ce n'est pas une administration, c'est vraiment une réalisation d'autogestion étudiante qui, vu le poids administratif nécessaire, est devenue un établissement public avec le temps.
D'accord.
Et donc, on est passé en fait d'un système de gestion d'un côté État, de l'autre côté organisation étudiante en tant que telle, représentative, à un système d'élection depuis 1971. Donc, les élections, elles ont lieu à deux niveaux. D'une part, au niveau des CROUS, donc des centres régionaux, donc c'est au plus près, hein. Et ensuite, les représentants étudiants élus dans ces CROUS, ils vont élire le CNO, donc le Conseil national, le CNUS, hein, le Conseil national des œuvres universitaires. Et ce qu'il y a d'important pour les organisations étudiantes, c'est que à partir du moment où un siège est obtenu au CNUS, ou au CNESER, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, eh bien, on a le statut d'organisation représentative avec une subvention particulière à proportion du nombre de voix obtenues. Donc, pour les organisations qui se présentent, c'est un enjeu à la fois, un, être considéré comme organisation représentative, et puis évidemment, deux, dans le cadre d'une concurrence entre organisations, évidemment, être plus fort que les autres. Bon. Voilà, si vous voulez, le cadre dans lequel on est. Et évidemment, les enjeux, bah, c'est aussi la gestion au quotidien, le prix des tickets de restaurant, l'aide sociale, tout ce que vous avez dit, bon, puisque c'est effectivement au plus près des étudiants. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus concret pour les étudiants, puisque le CROUS, quand on est étudiant, bah, pour beaucoup, on y vit. Hein, quand on est en CTU, on y mange, hein, donc il y a des cafétérias. Donc évidemment, c'est quelque chose de très concret.
Complètement quotidien, ça c'est sûr. Mais du coup, pour bien comprendre, là, donc, les étudiants vont élire d'autres étudiants par des syndicats. Et ce sont ces donc chaque région va élire différents syndicats. Et ces syndicats-là vont ensuite élire d'autres syndicats pour le niveau national ?
Ils vont élire, si vous voulez, on a, je crois, dans les 189, ou disons 200 élus étudiants, hein, un peu moins, mais 200 d'élus étudiants dans les CROUS. Et ensuite, ils vont élire, je crois qu'il y en a 7 maintenant à l'échelle nationale. Ces 200 étudiants sont des grands électeurs, c'est comme pour le Sénat, et on va élire au CNO des représentants étudiants.
D'accord.
Voilà.
Et ces conseils d'administration, ils sont composés uniquement d'étudiants ou également d'autres personnes ?
Non, non, les conseils d'administration, bah, c'était à l'origine, c'était paritaire, hein, c'était le principe de la parité entre, bon là c'est un peu moins paritaire, mais c'est, il y a des étudiants, d'une part, et d'autre part, il y a l'administration des CROUS, c'est-à-dire l'État, bon, et puis évidemment les représentants du personnel, hein, qui sont élus aussi, puis ça compte. Donc, mais si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir une parité. Parité, ce n'est pas égalité. Hein, c'est il y a plusieurs corps qui sont représentés, là, sachant que l'administration a en réalité le dernier mot. Hein. Mais voilà.
Ok, c'était justement un peu ma prochaine question, c'était quel est le poids réellement de ces voix étudiantes dans ce conseil d'administration ?
Alors, ces voix étudiantes, alors, elles comptent parce que, notamment au niveau régional, parce que d'abord, les gens de l'administration, ben, ce n'est pas des méchants. Hein, souvent, c'est des anciens étudiants, ils veulent rendre des services. Et donc, il y a plus les étudiants sont investis hein, chez les élus, eh bien, mieux ça se passe. Hein. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des différences, des différenciations, des oppositions, mais si vous voulez, au quotidien, on est tout de même dans le dialogue. Hein, dans le dialogue où les étudiants, leur rôle, c'est plutôt de pousser plus loin hein, ce qui est fait, parce qu'effectivement, on a des budgets qui s'appliquent, qui ne viennent pas, qui ne sont pas du ressort des CROUS, hein, même des administrations régionales, mais c'est effectivement les budgets d'État. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut travailler. Et si vous voulez, les CROUS, en dehors des CTU ou des restaurants universitaires dans lesquels on est assez tenu par des règles nationales, hein, des règles nationales et puis des mesures financières, y a plein d'autres choses qui peuvent être faites hein, au niveau culturel, au niveau d'aide sociale. Et là, c'est vraiment, dans chaque CROUS, il peut y avoir des politiques dans lesquelles les étudiants peuvent peser.
Ok, donc on retrouve vraiment, en fonction des différentes régions, les étudiants qui sont élus font vraiment que chaque CROUS est différent d'une région à l'autre. On ne retrouve pas forcément les mêmes services qui sont proposés.
Voilà, on a les mêmes services de base, si vous voulez. Et puis après, bah, y a qu'est-ce qui peut être fait. Bon, une activité culturelle ou est-ce que c'est une activité d'aide sociale plus importante en époque de précarité. Donc là aussi, bah, c'est des discussions. Est-ce que la culture doit passer totalement derrière parce qu'il y a là des urgences? Bon, ça, c'est des discussions qu'on peut avoir partout, dans tous les domaines. Hein, mais là, effectivement, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ces élections ou cette vie institutionnelle comme étant simplement un lieu de concurrence, de compétition entre organisations, ce qui est vrai au moment des élections, parce que c'est... mais dans la pratique quotidienne, très souvent aussi, les étudiants, loin des médias, bah, les différentes, même des différentes listes, travaillent ensemble. Hein, à partir du moment où on est à l'abri médiatique, parce que de toute façon, les médias en général s'intéressent à ce qu'ils pensent qu'il va faire du buzz, bon, et pas à ce qui se passe bah, dans un CROUS, comment c'est géré. Ça n'intéresse pas beaucoup la grande presse. Hein,
c'est... Oui, c'est sûr que c'est pas. On n'entend pas beaucoup parler d'ailleurs.
Non. Il a fallu, par exemple, le Covid pour qu'on découvre qu'il y a une précarité étudiante et, qu'il y a des... et que les organisations étudiantes. Bah, ce n'est pas que des manifestations ou des réunions mixtes ou le walk, hein, comme on a entendu, beaucoup entendu. Bah, c'était beaucoup le travail au quotidien, les urgences quotidiennes, les services, la solidarité.
Voilà. Oui, et la manière dont on peut vraiment faire bouger les choses. Et on en parlait un peu avant l'émission, il y a également d'autres élections pour des... On élit des étudiants qui vont représenter, mais cette fois pour chaque université. Quelles vont être les différences entre ces élections CROUS et ces autres élections pour les universités?
Alors, si vous voulez, les élections universitaires, donc, c'est pour les conseils d'administration des universités et aussi des UFR ou des départements. Ce n'est pas la même fonction, c'est la fonction budget de l'université, les diplômes. Là, on est plus... Donc là, ce sont des conseils composés d'étudiants. Depuis la LRU, depuis 2007, il y a une réduction du nombre d'étudiants, d'enseignants des deux corps, collège A, collège B, des personnels. Donc c'est vraiment ça, les composantes avec des élus. Et une fois qu'il y a l'élection d'un conseil d'université, il va y avoir désigné des personnalités extérieures. Donc, ça peut être un chef d'entreprise, des syndicalistes, des associatifs, des personnalités locales qui vont s'investir ou pas hein, dans le travail de l'université. Donc là, mais là aussi, c'est important pour les organisations étudiantes parce que c'est un élu au CNESER. On a les conseils d'université, on a la même chose. Hein. Mais là, ce n'est pas élu au même moment, c'est-à-dire tous les deux ans. Pendant deux ans, il y a un cycle, il y a tout le temps une élection quelque part. Ce n'est pas comme le CROUS où c'est tous les deux ans, partout, à peu près au même moment. Mais par contre, tous les deux ans, il y a une élection au CNESER, Conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche, l'équivalent du CNO au niveau universitaire. Et là, ce sont donc les élus étudiants dans ces conseils d'université qui vont élire... Hein, des élus étudiants dans le CNESER. Bon. Et là aussi, si on a un siège, si on décroche un siège au CNESER, on est considéré comme organisation représentative.
Et ces étudiants qui sont élus, ils sont élus donc, dans des syndicats? Et ce sont les mêmes syndicats que l'on retrouve?
Alors, pas forcément, parce que les élus sont élus par les étudiants. Ce n'est pas tant les syndicats, hein, donc les syndicats ou les associations à vocation représentative ou n'importe quelle organisation peut présenter des listes. Syndicats, même des partis politiques, on voit des groupes confessionnels, peuvent présenter des listes, il y a des élections, et donc c'est les étudiants qui votent. Donc il n'y a pas de monopole, il n'y a pas, comme dans les entreprises, un monopole syndical de présentation.
D'accord.
Merci beaucoup, on va faire une petite pause musicale et on écoute Off Out Air de Gareth Donkin. Something C'était Haute Air de Gareth Donkin.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et Roby Mordeur est toujours avec nous. Nous parlons des élections des représentants des étudiants et je passe la parole à Julie.
Exactement, donc on se retrouve pour toujours parler de cette élection des étudiants au conseil d'administration du CROUS qui aura lieu du 3 au 5 février prochain. Et c'est une... Donc, comme on l'a compris, donc c'est une élection qui a de l'importance, mais il y a beaucoup, on le retrouve souvent, beaucoup de gens qui ne votent pas, qui ne participent pas. Comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça ?
Alors d'abord, il faut tordre le cou à l'idée que les étudiants ne votent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à la chose publique, à la chose politique. Parce que quand on compare avec le vote étudiant au moment des élections présidentielles ou législatives, on dépasse de loin les 5, 10 ou 15% de participation aux élections étudiantes. Ça, dans les travaux qu'on a menés avec des entretiens, avec les archives de la Cité Mémoire étudiante, par exemple, aussi, on a abouti à l'idée de que l'université, pas pour les étudiants, considérée comme un lieu d'exercice légitime de la citoyenneté. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'est pas un lieu facile, il faut le connaître, on ne fait qu'y passer. Et donc, c'est très compliqué. Donc, à la limite, les enjeux politiques sont plus simples, hein, on pourrait dire, au présidentiel, là où il y a le plus de participation au vote en général et pour les étudiants en particulier. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier problème qui est celui de l'appropriation par les usagers de leurs établissements. Bon. Deuxième élément, c'est la concurrence. C'est-à-dire, quelle est la différence entre ces différentes organisations qui se présentent ? Quand on regarde les programmes de l'UNEF, de l'Union étudiante, de la FAGE, bon, c'est assez distinct de programmes de l'UNI ou des identitaires, bon là c'est certain. Mais grosso modo, c'est entre ces trois-là que ça se passe aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas énormément de différence. On avait fait un séminaire avec eux, puisqu'on travaille avec les organisations étudiantes, on les réunit. Et on avait, par exemple, sur la question de la rémunération des étudiants, allocation d'études, salaire étudiant, allocation d'autonomie. Il y a des différences de formulation, mais sur le contenu, c'est extrêmement proche.
Bon. Les trois ont la même idée.
C'est la même idée, d'ailleurs, qui est une idée ancienne, qui date déjà de quasiment un siècle. Le travail étudiant doit être rémunéré. Bon. Et pas simplement par des bourses. Et donc, c'est vrai que comme il y a plusieurs organisations, c'est un peu chacun met en avant une telle ou telle formulation, puis on insiste sur des différenciations, des différences, parce qu'il faut se différencier du concurrent. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont communs. Beaucoup de thèmes, beaucoup de revendications. Ça se voit dans la pratique, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les pratiques de base. Donc, c'est vrai que un étudiant, il se demande pour qui voter, mais c'est la même chose pour les élections universitaires. Quelle est la différence ? Soit il connaît des gens, soit qui sont dedans, soit il y a des options plus ou moins politiques réelles ou imaginaires. Hein. Bon, on vote pour ça, mais c'est vrai pour la plupart. Pourquoi je vais choisir entre des gens qui m'ont l'air aussi compétents l'un que l'autre ? On ne peut même pas dire, j'ai creusé un peu l'affaire, que ça soit une crise de légitimité, parce qu'on a des étudiants qui ne votent pas, mais par exemple, quand ils pensent que les militants ou les bénévoles qui se présentent, qui sont élus, ils sont compétents. Et d'ailleurs, quand on a un problème, on va les voir. Même sans avoir voté, sans être adhérent, parce qu'on sait que c'est les plus efficaces, etc. Mais quand je ne connais pas, pourquoi j'ai choisi l'un plutôt que l'autre ? C'est tout de même le cas de la majorité des gens. Donc ça, ça pèse. Mais il faut savoir que ce n'est pas récent. Hein. Même à l'époque où il n'y avait qu'une seule UNEF qui gérait de fait, ou co-gérait les CROUS, hein, les congrès de ces organisations, où ils n'avaient pas plus de 10 ou 15% de votants, parmi les adhérents, il y avait beaucoup d'adhérents. Hein, bon. Mais c'était pareil, avec un autre système. Donc c'est vrai que là, il faut tordre un peu avec les idées reçues et voir quels sont les problèmes tels qu'ils se présentent, hein, pour essayer de résoudre.
Mais du coup, alors, donc dans les différences, donc vous dites qu'il n'y en a pas forcément beaucoup entre les différentes listes, mais ça va être quoi les idées principales qui vont être portées pour ces prochaines élections ?
Alors les idées, moi, ce que je vois, c'est effectivement la lutte contre la précarité. Mmh. Bon. Ça, on le voit très nettement et c'est totalement renforcé depuis le Covid. La question, effectivement, de l'allocation d'études, l'allocation d'autonomie, la rémunération, enfin, le fait que les étudiants puissent avoir des conditions matérielles décentes de faire leur travail d'étudiant universitaire et de ne pas être obligé de travailler en dehors au détriment de leurs études. Bon. Puisque c'est souvent le cas. Hein. Donc, là aussi, il y a le logement. Bon, on voit très bien le logement. Le repas à 1 euro. Bon, ça a été obtenu, c'était une revendication. Donc, qui va être le plus connu, qui est déjà en place. Ça peut être aussi des orientations nationales. On a dit que l'UNEF était plus proche du Parti socialiste ou des écologistes. On a dit que la FAGE, même à un moment donné, on a dit qu'elle était plutôt à droite, alors que c'est plutôt... c'est pas le cas et c'est ancien. On dit que l'Union étudiante est plus proche de LFI. Bon. Alors, c'est vrai que il y a des thématiques qu'on voit. Hein, c'est pas... Il y a des proximités qui existent, mais qui... dans lesquelles les organisations étudiantes ont de toute façon une autonomie réelle. C'est-à-dire, il n'y a pas véritablement de courroie de transmission. Où je dis toujours que si courroie de transmission est liée, elle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que très souvent, les organisations étudiantes, c'est-à-dire que les étudiants membres des partis politiques qui sont membres d'organisations étudiantes sont les relais au sein des partis des revendications de ces associations.
Aussi parce qu'ils sont le plus proches des étudiants au quotidien.
Voilà. Donc c'est un fonctionnement qui est dans les deux sens, si vous voulez, avec une préoccupation effectivement d'indépendance plus ou moins relative, suivant les organisations, suivant les moments. Mais c'est vrai que pour le grand public, y compris le public étudiant, très souvent, telle ou telle organisation étudiante est rattachée à telle ou telle, dans l'idée, à tel ou tel courant. Donc on peut ne pas voter ou voter parce qu'on a ça en tête, même si quand on creuse, ce n'est pas toujours vrai.
Mais donc pour des étudiants qui nous écouteraient, qui ne seraient pas forcément très politisés, quels arguments pourraient donner pour dire que si c'est important d'aller voter à ces élections ?
C'est important parce que ça montre un attachement par rapport à tout ce qui peut être comme menace contre les élections. Au Conseil de Prud'homme, dans les conseils des Prud'hommes, les élections ont été supprimées parce qu'il y avait, grosso modo, on était arrivé à 2/3 d'abstention.
Ah oui ?
Oui, aux élections au Conseil de Prud'homme. En soulignant ce que tout le monde oublie, c'est que du côté patronal, les abstentions étaient plus importantes que du côté salarié. Mais donc, on a résolu le problème, on a supprimé les élections, donc on supprime l'abstention, évidemment. Donc ça, ça peut être une menace qui pèse comme argument, après tout, pourquoi on n'aurait pas des conseils nommés. Puisque les étudiants... Donc il faudrait que les étudiants votent. Et je dirais que le régime juridique permet à n'importe quelle association d'étudiants de se présenter. C'est-à-dire que si on n'est pas content des listes qui sont présentes, rien n'empêche des étudiants de se réunir, de présenter une liste complète. Je veux dire, trouver une dizaine ou une douzaine de noms par crous, c'est tout de même... C'est faisable. Si on n'est pas content de ce qui existe, on peut se prendre en charge. Et pas rester dans l'abstention de « ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné ».
Oui, bien sûr. Oui, en fait, tous les étudiants sont concernés, c'est pour ça que c'est important d'aller voter. Et du coup, pour un mot de la fin, est-ce qu'on pourrait dire aux étudiants comment aller voter très concrètement, comment ça va se passer ?
Alors, c'est des élections qui avaient lieu avec des urnes, et maintenant, c'est de plus en plus le vote électronique. Donc j'ai pas le détail en tête parce que c'est récent, ça a permis d'augmenter un peu mais c'est pas une grande révolution, c'est-à-dire qu'on a changé la technique de vote, on a amélioré la participation, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la vision de l'université comme lieu d'exercice légitime de la citoyenneté, que ce soit par les élections, par l'engagement dans des organisations ou associations et par les actions, par l'action, tant que ça ne sera pas réglé, évidemment, on n'avancera pas. Mais c'est compliqué, la démocratie, c'est plus compliqué. C'est pour ça que souvent, dans beaucoup de pays, on préfère avoir affaire à des gens qui pensent pour vous, qui choisissent pour vous. C'est plus reposant, c'est vrai.
C'est sûr que la démocratie, c'est compliqué, ça c'est toujours le cas. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations que vous nous avez données. Et comme c'est en ligne, ce sera théoriquement plus simple. Donc on invite nos auditeurs à voter en tout cas.
Merci Roby Border, merci Julie. Et tout de suite, c'est le Flash Info.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Bonjour, Jean-Marc Morandini s'est désisté jeudi 22 janvier de son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour harcèlement sexuel. L'animateur avait été condamné en appel en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un jeune comédien. France, le deuxième volet du projet du budget de l'Assemblée l'État pour 2026 est étudié aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de Sébastien Lecornu, qui a eu recours à l'article 49.3 pour chaque volet du projet de loi, va de nouveau affronter deux motions de censure déposées par une partie de la gauche et par le Rassemblement national. Europe. L'Inde et l'Union européenne ont officialisé mardi 27 janvier la conclusion d'un ambitieux accord de libre-échange commercial. L'accord va créer une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes. Le texte de l'accord, qui n'a pas été rendu public, doit ensuite être adopté par les États membres de l'Union européenne et les députés européens. États-Unis. Les États-Unis n'avaient pas subi un tel événement météorologique depuis des dizaines d'années. La tempête hivernale Fern, qui continue de frapper le pays mardi 27 janvier, a fait au moins 30 morts, selon un décompte réalisé par les médias locaux américains. Quelques 600 000 foyers sont aussi privés d'électricité. Et enfin, pour terminer, sport. À l'approche des Jeux Olympiques d'hiver, le nord de l'Italie est en pleine effervescence. Les anneaux olympiques sont déjà à Cortina. La flamme olympique, elle, voyage depuis le 6 décembre dernier dans toute l'Italie, à travers des régions connues dans le monde entier, comme la Toscane et les Pouilles. Les Jeux Olympiques d'hiver débuteront le 6 février prochain. Et tout de suite, on écoute Back to Friend de Sandre.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut, 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 tut quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir, plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye, adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye, adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye, adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye, adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'y perde de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous.
C'était Back to Friend de Sombre.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Et je suis avec Noémie qui va nous parler du sujet Être galérien. Ils ont donc il va nous parler d'un livre qui s'appelle Ils ont qu'est-ce que tu nous as dit déjà ?
Ils ont écrit leur visage de Arlette Page qui est historienne.
Voilà, j'arrivais pas. Merci. Et ben tiens, c'est à toi.
Merci Fabien. Alors oui, bah, pour commencer cette chronique, peut-être qu'une question vous vient de plus en plus en ce moment, que ce soit soudainement à votre réveil ou la nuit quand vous scrollez. Suis-je un galérien ? ou est-ce qu'on nagerait pas tous et toutes dans la galère ? Ce mot très argot que j'utilise moi-même un peu trop, c'est parfois une insulte, c'est parfois l'ironie, mais c'est un mot avant tout très utile pour désigner une personne qui s'acharne beaucoup, mais pour qui, on le sait, c'est quand même compliqué. Et en fait, si on regarde bien le mot, il vient de bien plus loin. Être galérien, ça renvoie à un statut bien particulier dans l'histoire. À la base, ça vient du XVIIIe siècle, et on parle en fait de galérien pour une personne qui travaille dans les galères. Les galères, c'était des bateaux qui étaient calés au port de Marseille, en France, où des gens, en fait, qu'on isolait, des suspects, des criminels, et on les faisait ramer dans des conditions vraiment hardcore, souvent attachées. Et on appelait ça les galériens. Et ces fameux galériens, ils venaient un peu des quatre coins de la France, jusqu'à Marseille, à pied, entourés de gardes. Et à leur arrivée dans le sud, on leur donnait une immatriculation avec genre le nom, l'âge, le motif de la condamnation, qui était souvent ethnique ou religieuse. Et dans leur immatriculation, il y avait aussi les traits de leur visage. C'est cette donnée-là qui va intéresser Arlette Farge dans son nouveau livre qui a été publié il y a quelques semaines, qui s'appelle donc « Ils ont écrit leur visage ». C'est un petit livre qui est paru très récemment, mais qui est passé pour moi assez inaperçu et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Déjà, l'édition est très belle, on est à la frontière de l'objet d'art et du roman. Et au départ, je me suis moi-même dit « Oh là, mais c'est un recueil de poèmes, qu'est-ce que c'est ?» Tous les chapitres sont séparés par une forme géométrique, là où d'ordinaire, pour un bouquin d'histoire, on n'attendrait aucun ornement ni folie esthétique. Mais donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que cette historienne qui s'intéresse depuis longtemps au comportement populaire à Paris, elle a à nous dire de ces galériens dont il ne nous reste aujourd'hui que l'expression ? En fait, elle nous explique que le but premier au XVIIIe, c'est de maintenir l'ordre. Donc petit à petit, on entre dans une période où la police va contrôler la population, où la question de la punition va se poser. Et du coup, la notion d'individu dangereux et les manières de l'identifier vont arriver. Et qui va faire tout ça ? C'est donc la police et les instances judiciaires. Et bingo, la galère dans ce contexte, elle va fasciner l'opinion publique. Quand les galériens vont débarquer dans les rues, la foule, elle est à la fois horrifiée et en même temps, elle veut leur punition. Et ce qu'il y a de novateur et de vital, je trouve, dans ce livre d'histoire et d'archives, c'est la place de l'émotion. Face à ces galériens, l'historienne, elle va assumer, en fait, sans rougir, son émotion, sa position. Elle va laisser entrer les affects dans son travail, loin de mettre ses récits à distance ou de se revendiquer neutre. Je trouve ça extrêmement humble comme travail. Et j'ai trouvé que ça résonnait vachement avec notre système actuel. C'est-à-dire que les personnes dissidentes face au pouvoir ne sont évidemment pas comparables aux galériens du 18e. Mais ça nous dit quand même plusieurs choses aujourd'hui, en 2026, trois siècles après. C'est d'abord qu'être signalé par la police n'a jamais été et ne sera toujours pas neutre. Aussi qu'on regroupe et qu'on isole toujours des boucs émissaires face à un régime, et surtout que pour le pouvoir, il faut les rendre visibles, qu'on montre leur visage. Voilà, pour rappel, c'est le livre « Ils ont écrit leur visage » d'Arlette Farge, qui est paru chez Métis Press, qui est disponible dans votre librairie indépendante préférée.
Eh bien, merci Noémie, et il est l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, nous recevons Suzanne Frugier, Isabelle Bourdon de l'association 160 000 enfants pour présenter le festival contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est Kerianne qui les interviewe. Bonjour Suzanne Frugier.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Kerianne, c'est à toi.
Bonsoir à tous. Oui, donc vous organisez le festival qui a lieu ce samedi 31 janvier de 14h30 à 23h30 à Saint-Ouen. Ça se passe à la communale. Alors pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, on va d'abord revenir dans un premier temps sur l'association. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur les motivations derrière la création de l'association 160 000 enfants, s'il vous plaît ?
Oui, alors l'association 160 000 enfants, à la base, c'est un collectif qui s'appelait Soutien Civise 1, qui s'est créé à la suite du rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles qui a été rendu en novembre 2023. C'est un travail qui a été mené entre 2021 et 2023 et cette commission indépendante, elle a été mise en place à la suite de l'intervention du chef de l'État Emmanuel Macron qui avait dit « J'ai entendu, vous ne serez plus jamais seul ». Et donc c'est une commission indépendante qui a réuni de multiples experts et surtout fait inédit en France. C'est appuyé sur 33 000 témoignages de survivantes et de survivants de violences sexuelles dans l'enfance. C'est extrêmement important de le souligner parce que c'est vrai que souvent on crée des préconisations, des commissions et on rassemble souvent que des experts et là ce n'était pas le cas. Et en fait quand ce rapport a été rendu, le juge Édouard Durand qui a été une des figures emblématiques de cette commission, il a été débarqué littéralement. Et dans la continuité, plusieurs membres fondateurs en sont partis. Et nous, les survivantes et survivants, qu'on ait témoigné ou non à la Civise, bah là, on s'est sentis trahis. On s'est sentis seuls, extrêmement seuls. Et du coup, on s'est, pour certains, on a fait juste des petits appels sur les réseaux sociaux.
Des pancartes,
on a fait des pancartes. Exactement. Et en fait, on ne se connaissait pas. Et on a pris contact les unes les uns avec les autres. Et puis, bah, du coup, on a été quelques personnes à créer ce collectif pour faire en sorte que les 82 préconisations du rapport de la Civise ne soient pas lettre morte. Et qu'il en soit quelque chose, parce que depuis, la Civise existe toujours. Ils ont créé voilà, plusieurs membres pour diriger cette Civise, sauf que la réalité, c'est que c'est une coquille vide et il ne se passe rien.
En gros, en France, on a un plan cancer. On n'a pas de plan contre les violences sexuelles faites aux enfants. C'est un scandale, en fait, c'est lamentable. Un jour, l'histoire dira à quel point on a été aveugle. Mais comme dit Suzanne, c'est pour ça que pour effectivement les témoins et les personnes et nos followers, c'était impossible de trahir toutes ces personnes et qui en plus, dont certaines n'ont pas encore eu le temps, n'ont Bien jamais sûr. Eu le temps de rencontrer la Civise.
Bien sûr, juste pour revenir sur le titre, qui sont celles et ceux qui sont les 160 000 enfants dont vous parlez ?
Alors justement, ouais, je voudrais quand même pour les auditrices et auditeurs donner des éléments clés pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ça concerne au moins 160 000 enfants par an. On est victime de violences sexuelles dans l'enfance, d'inceste. On est 11% de la population. C'est quand même pas rien. C'est 3 enfants par classe. Et 3 enfants par classe. Un enfant qui est agressé toutes les 3 minutes sexuellement. Ou un enfant qui meurt sous les coups de ses parents. Et ce qui est vraiment, ce qui révèle aussi le rapport de la Civise et qui est extrêmement important, c'est que 9 fois sur 10, un enfant qui parle, il est entendu, mais il n'est pas protégé, voire pire, il est traité de menteuse et de menteur. Voilà, donc on parle de crimes, en fait, parce que des viols, de l'inceste, il s'agit de crimes. C'est pas rien, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a aucune politique publique d'envergure. D'ailleurs, il n'y a pas de politique publique, on n'a pas de ministère dédié à ça. Et donc, c'est pour ça que nous, les associations, on est là pour porter haut et fort.
Je précise aussi que 160 000 enfants, c'est aussi le titre d'un ouvrage d'Edouard Durand qui a été édité par Antoine Gallimard. 160 000 enfants, violence sexuelle et déni social. Mmh. Et Edouard Durand est quelqu'un qui nous accompagne, qui est quelqu'un qui a toujours été fidèle à la parole des témoins, comme d'autres personnes. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle comme ça, 160 D'accord. 000 enfants.
Et donc on a bien compris le contexte, les enjeux, c'est à ça aussi que ça sert d'organiser un festival, c'est oui. pour médiatiser, s'approprier l'espace public aussi, pour montrer qu'on existe.
Alors il y a un enjeu double, c'est pas uniquement pour s'approprier l'espace public, c'est vrai qu'à partir du moment où la Civise s'est éteinte, parce que pour nous elle s'est éteinte, comme disait Suzanne, c'est un peu une coquille vide, il faut qu'on continue à parler de ces sujets-là quand même, qui sont importants, puisque là autour de cette table on est 5, je pense qu'on est tous et toutes concernés, parce que soit on l'est directement, soit on connaît quelqu'un, soit c'est votre ami, c'est votre copain, soit on ne le sait pas. Et voilà, donc là il y a l'enjeu effectivement de ne pas laisser éteindre la parole qui a été entendu pendant 3 ans avec la Civise, mais c'est aussi un enjeu de bataille culturelle. C'est-à-dire qu'il y a eu des écrits qui ont été produits, il y a des gens qui parlent. Quand on parle d'inceste et de violence sexuelle, il y a des gens qui créent des films, des podcasts, il y a des choses, il y a des gens qui sont en train de réfléchir ensemble. Et ces choses-là, on en entend parler parfois, mais pas souvent, et c'est pas en lien. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire un festival où vont se croiser toutes les voix qui créent ou qui parlent ou qui cherchent. Donc c'est un petit peu ça. Et puis c'est aussi un moment de chaleur. On va être un petit peu, c'est la 2e édition, et on va être bien, on va se tenir chaud, et on va vibrer ensemble aussi.
D'accord. Alors justement, vous en parlez, donc il y aura des échanges, il y aura des artistes, ouais. des lectures de manière assez traditionnelle dans ce genre d'événement. Ouais. Mais alors je note par exemple la participation de Vanessa Springora, l'autrice oui. du consentement, de la réalisatrice Amandine Gay, mais je note aussi qu'il y a de la musique, du graffiti, pour de la musique, on peut citer par exemple Manon Lisa et notamment du tatouage. Pourquoi est-ce que c'est important de mêler aussi tous ces arts et de créer cet esprit de fête justement?
Alors attention, je suis impressionnée pour le tatouage. Il y a un atelier enfant, okay. Il y a un espace enfant qui sera ouvert à tous les enfants. Donc ce sera des tatouages éphémères. Pourquoi pas un jour le tatouage, c'est aussi un outil de transformation de soi. Nombre d'entre nous, les survivantes sont tatouées. C'est aussi une façon de réécrire soi. Mais en fait, on a un espace enfant où il y aura des choses comme ça. En fait, il y a effectivement des chanteuses, il y a des penseuses, des chercheuses, des personnes qui écrivent. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments. Il y a un moment qui va être dédié à un salon du livre où il y aura des dédicaces, où il y aura toutes ces... On a beaucoup d'autrices cette année qui vont signer leur livre. Il y a 4 moments qui vont être des talks. Un qui va être dédié à la question de la réparation et du soin. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de réparer et soigner dans ces conditions-là? Un qui sera sur la question des mères protectrices. Un sur la question des violences sexuelles entre mineurs. Et un sur les enfants racisés. Sont-ils des enfants? Puisque, voilà. Il y a le concert après.
Ouais, voilà. Je voulais y venir. Donc vous le dites, il y a une place accordée aux enfants. Vous allez aussi vous adresser aux enfants. Et je voulais savoir justement, comment est-ce qu'on parle à tous les enfants? Comment est-ce qu'on parle aussi aux enfants racisés, aux enfants handicapés? Est-ce qu'on utilise les mêmes mots et...
Bah en fait, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de la protection des enfants, les enfants, on les naturalise. Comme s'il y avait une seule manière d'être un enfant. Et surtout, on les oublie beaucoup, puisqu'on est nous-mêmes adultes dans l'oubli de notre propre enfance. Les enfants, ils ont un sens aigu de ce que c'est que la justice et que l'injustice. Et quand on est un enfant racisé, quand on est un enfant handicapé, quand on est un enfant on n'est pas pareil. Il se trouve que au festival, on accueille quand même Mylène Chapiron qui a vraiment dédié toute une partie de son activité à la prévention des violences sexuelles et qui s'adresse aux enfants à travers des ouvrages et aussi à travers des activités de prévention dans les écoles. Donc voilà, c'est aussi une manière de s'adresser aux enfants directement pour leur donner les mots pour exprimer et pour se défendre. Il est évident qu'il faut sortir de l'idée que les enfants, de naturaliser les enfants et de les déposséder, et il faut empouvoirer les enfants. Et je crois que c'est pour ça aussi que des personnes comme Amandine Gay ou d'autres personnes, moi je pense même à Cécile C, etc., sont là pour parler de ça, pour parler du fait que pour que les enfants, leurs paroles soient entendues, il faut aussi leur donner les moyens de se faire entendre.
D'accord. Je voulais savoir, que l'actualité politique aussi est aussi riche vous concernant. Il y a notamment eu aujourd'hui cette proposition de résolution portée par le député donc Christian Baptiste qui tend à la création d'une commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants. Notamment, il parle de la situation des parents protecteurs. Pourquoi est-ce qu'il est encore aujourd'hui nécessaire, après tout ce qu'on s'est dit, d'avancer au niveau législatif sur ce sujet ?
Alors, on est ravis effectivement qu'on en parle un peu plus et surtout qu'il y ait de plus en plus de parlementaires qui s'emparent, que ce soit des députés ou des sénatrices et des sénateurs. Évidemment qu'on ne peut qu'accueillir favorablement ces travaux. Malgré tout, en fait, tout ça est déjà documenté et on sait comment faire. Encore une fois, je reviens moi sur le rapport de la CIVIS. Ces 82 préconisations, elles sont très concrètes. Elles traitent à la fois sur le repérage, sur le traitement judiciaire, sur la prévention, sur le soin. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces 82 préconisations, elles soient mises en place. De manière législative, il y a encore évidemment des avancées, notamment l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Là, on n'y est pas encore, on y arrivera un jour, parce que ça, on ne lâchera jamais, et qu'on gagne du terrain, mine de rien, à force de faire du plaidoyer politique aussi auprès des parlementaires. Par contre, il y a des avancées là aujourd'hui, c'est bien. L'ordonnance de sûreté, effectivement, qu'on réclame, il y a des parlementaires enfin qui s'emparent du sujet et qui le portent au niveau du gouvernement, tant mieux. Mais nous, ce qu'on demande, encore une fois, c'est vraiment la mise en place des 82 préconisations du rapport de la CIVIS et qu'on arrête surtout de nous sortir des commissions, des rapports, etc. Parce que ça fait des années, en fait, qu'il y a des rapports qui s'empilent et qu'il n'y a rien derrière.
En fait, ce qu'on demande, c'est une politique concertée.
C'est ça. C'est ce qu'on retiendra et c'est ce pourquoi vous allez pousser ce week-end. Merci beaucoup, Isabelle Bourdon, Suzanne Frugier. Voilà, merci. Donc je rappelle le festival.
Et venez au festival.
Voilà, 160 000 enfants. C'est ce samedi 31 de 14h30, 23h30 à Saint-Ouen, à la Communale. Et on insiste, c'est pour toute la famille et donc tous les enfants.
C'est pour tout le monde. Voilà. Venez nombreux et nombreuses.
On vous attend.
Eh bien, merci Suzanne Frugier, merci Isabelle Bourdon, merci Carianne. Et tout de suite, on écoute Ailleurs de Orelsan sur Radio Campus Paris 93.9 FM. C'était Back to Friend de Sombre.
La matinale de 19h.
Et la matinale touche à sa fin, mais pas tout à fait, parce que je suis avec Abel, qui va nous parler de tyrannie de l'exécutif. Bonjour Abel.
Bonsoir Fabien, bonsoir Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nouvelle chronique sur l'ambiance fascisante mondiale, un sujet plutôt de prédilection, plutôt d'actualité. Et je vais commencer avec une petite recommandation culturelle dans le thème. Allez voir 28 ans plus tard de The Bone Temple par l'excellente Nia Dacosta, avec des thèmes sur le discours nauséabond. Bon, le fascisme et la masculinité qui m'ont beaucoup séduit, ça et la quantité astronomique de pénis mou à l'écran, un film qui ose sur ses thématiques comme sur sa forme. Et pour enchaîner en parlant d'audace, comment ne pas parler de l'ICE ? Oui, comme tout le monde, j'aimerais pisser sur la milice du gars orange pour ressentir cette mesquine vengeance. Ce serait cathartique certes, mais uniquement pour ma pauvre petite personne. Vous le faites déjà tous si bien et le drame de la situation suffit à incliner cet accent de gravité. Je parle de discours, de milice, mais surtout de Donald Trump, dont le bruit des pas lents et sourds de ses fantasmes impériaux s'incarne à travers ses outils préférés, les « executive order ». Pouvoir dangereux et suprême, il lui sert à vomir l'immondice de sa vision politique, économique, théocratique et d'autres mots en hic. Mais trêve d'adjectifs et de figures de style, l'executive order, ou décret en français, c'est l'outil suprême du pouvoir présidentiel pour agir vite et fort en évitant les débats avec le Congrès ou les représentants. Normalement, c'est un outil d'urgence, discuté, mais le locataire actuel de la Maison-Blanche en fait le fer de lance de sa politique, avec 227 décrets en 2025, plus que sur l'intégralité de son premier mandat. Et c'est notamment avec le décret qu'il a donné ce pouvoir et ce budget à la police de l'ICE. Heureusement, il est possible de poser une poursuite en justice contre un décret, plus de 250 recours l'année passée, mais le moindre procès, enquête ou discussion, ça prend des mois et des mois. C'est une stratégie assumée de la part de son entourage, noyer l'opinion publique dans des dizaines de prises de parole provocantes et chambouler le judiciaire et le législatif avec les décrets. Bon, les États-Unis c'était un peu la merde, des milices d'État, un climat de guerre, un futur dictateur, et avec les décrets c'est le boulevard vers l'autoritarisme. Mes chers auditeurs, en France, dans notre infinie supériorité républicaine, nous pensez-vous si fragiles ? Surtout après avoir été foudroyé de terreur par les dictatures européennes du siècle dernier, un pouvoir présidentiel fort certes, mais encadré par les assemblées. Eh bien, détrompez-vous, et si vous pensez à notre cher compagnon le 49-3, revenu récemment de congé prolongé, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Non seulement nous avons cette loi que notre chère Elisabeth Borne apprécie tant, mais dans le doute, nous avons également le décret présidentiel, en somme toute, semblable au décret américain. Et je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous n'était pas au courant, et c'est bien là le but de ma chronique, malgré sa structure vaseuse. Dans un climat orageux avec l'extrême droite aux portes du pouvoir, héritier des pires totalitarismes du siècle passé, la méfiance est de mise. Il paraîtrait même qu'il ne suffirait que de 18 mois pour détruire l'état de droit français. Alors l'idée, c'est pas seulement de vous faire peur, mais bien d'informer, de prévenir, de mobiliser. Encore aujourd'hui, nos dirigeants tremblent face à nos soulèvements et leurs mains fébriles hésitent à presser le 49,3e bouton. Ne les laissez pas oublier qu'ils sont à notre service, malgré ces outils potentiels preneurs d'otages des libertés et de la démocratie. J'espère que ces quelques mots verbeux ne vous ont pas fait vomir, mais si personnellement je me rêve en Jean Jaurès, je souhaite surtout provoquer votre réflexion sur ces pouvoirs, et je finis maintenant. Mais après pareil discours, je tiens à exprimer ma sympathie avec les manifestants de Minneapolis et plus largement aux États-Unis. Pas droit, ni ici, ni là-bas. Merci.
Eh bien, merci Abel pour ce décryptage du gouvernement. La matinale de 19h est finie. Merci à Robbie Mordeur, co-président du GERM. Merci à Julie, merci à Suzanne Frugier, Isabelle Bourdon, merci à Kariane pour le Zoom et merci à Noémie et Abel pour leur chronique. À la réalisation, c'était Joé et Mustapha. À la coordination, c'est Odéjane. Tout de suite, c'est à Contre-Taf pour explorer les blocages du monde du travail et leurs solutions. La matinale de 19h revient demain. Bonne soirée à tous sur la 93.9 FM.